de continuer à manifester ta bonne main sur nos vies. Laisse que ce temps soit ton temps. Laisse que ce temps soit un temps d'édification, de visitation et de révélation. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Assois-toi, bien-aimé. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre école des disciples. Alléluia. C'est encore un autre soir que le Seigneur nous donne. Et je sais, je crois que ce sera une soirée profonde encore d'édification, comme d'ailleurs le Seigneur a l'habitude de nous l'accorder, de nous faire la grâce. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais saluer tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Vous êtes au bon endroit. Et ce soir encore, prêtez-nous vos oreilles et vos cœurs afin que ce qui sortira de nos bouches puisse transformer nos vies. Amen. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est nous bénissons le Seigneur parce que vers 15 heures, la première équipe des missionnaires s'est déportée du côté de Baganté. Alléluia, sous la supervision de Papa Emmanuel. Et c'était une équipe de 4, Papa Emmanuel, Papa Joseph, et Maman Élise et Maman Gertrude. Ils ont pris la route, il était 15 heures parlant. Alléluia. Et à l'heure où nous parlons, ils sont en train de dépasser Manjo. Alléluia. Ils sont en train de dépasser Manjo. Donc, disons que d'ici 21 heures comme ça, 22 heures, ils seront du côté des Bagantes avec la grâce du Seigneur. Amen. Donc, continuons à les garder dans la prière. Ils dormiront du côté des Bagantes. Et demain matin, ils reviendront sur le site de l'évangélisation. Alléluia. Nous étions ce soir, nous avons prié avec eux et nous étions avec le pasteur Agé qui était là. On a passé la matinée ici pour superviser un peu les chargements parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et de son côté, ils sont une quinzaine également qui vont quitter ce soir. Alléluia. Ils ont ajouté aux 8. Aux 9 qui vont être de ce côté, ça va être dans la trentaine. Alléluia. Donc, je crois que le Seigneur prendra soin. Et en tout cas, nous prions. Amen. Nous restons en prière parce qu'une deuxième équipe quittera ce soir. Alléluia. Nous avons Maman Dany Blanc, nous avons Judith Nana, nous avons Claire. Nous avons une quatrième personne, c'est qui? Samuel, voilà, le frère Samuel. Ils quitteront ce soir. Amen. Et Maman Judith Danick les rejoindra demain au début du week-end. Alléluia, pour clôturer avec eux et revenir tous ensemble. Alléluia. Ce sera des bons moments, en tout cas. Amen. Ce sera des bons moments. Jésus est Seigneur. Alors, nous parlons des épreuves depuis la semaine dernière. Et je crois que depuis qu'on a commencé ça, beaucoup voient beaucoup d'épreuves dans leur vie. Alléluia. Nous vivons pas mal d'épreuves ces derniers temps. Et il est important de revenir encore une fois de plus sur la notion d'épreuve, 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 d'épreuve. Nous avons dit que le disciple... en fait, que l'épreuve faisait partie intégrante de la vie du disciple. Alléluia. Et que l'épreuve en elle-même n'était pas un facteur dangereux, mais un facteur contributeur, alléluia, à l'élévation, à la révélation de la réalité et ou bien de l'identité du disciple. Alléluia. Nous avons essayé de définir les thèmes épreuves. Nous l'avons défini sur trois angles. Premièrement, nous avons dit que l'épreuve était ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités. Alléluia. Ce qui agit sur certaines personnes pour démontrer la réalité de certaines qualités. Alors, nous avons parlé de ces qualités comme l'obéissance, ces qualités comme la sincérité de l'amour, le zèle, le service, la foi, la vie personnelle, les cœurs que Dieu lui-même éprouve, la libéralité. Nous avons vu que, oui, bien-aimé, on ne peut pas connaître que tu as une certaine libéralité si tu ne passes pas par certaines épreuves. Ta foi, ta joie, ta paix, ta maîtrise de soi ne peut être confirmée qu'au travers d'une épreuve. Alléluia. En deuxième lieu, nous avons défini l'épreuve comme l'action de prouver quelque chose afin d'en vérifier la réalité. Alléluia. L'action de prouver quelque chose afin d'en vérifier la réalité. Nous avons parlé de la mise à l'épreuve de notre foi qui produit la patience. Jacques chapitre 1, le verset 3. Et nous avons vu que l'épreuve ici se trouvera être un sujet et nous demande l'épreuve ici se trouvera être un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. Alléluia. Ensuite, nous avons vu en dernier lieu que l'épreuve était également définie comme une tentation. L'épreuve était définie comme une difficulté. Alléluia. Une tentation, une difficulté. Et nous avons parlé de Paul qui avait servi le Seigneur en Asie avec les épreuves. Actes chapitre 20, le verset 19. Nous avons parlé du feu ardent qui était venu sur les croyants pour leurs épreuves. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Nous avons vu également que l'épreuve manifeste la fidélité dans la vie des chrétiens. Alléluia. Et nous avons, et c'est ce que Jacques disait, Jacques chapitre 1, le verset 2, que nous devons regarder les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés avec une joie parfaite. Alléluia. Nous voyons alors que les difficultés par lesquelles nous passons, nous sommes éprouvés, nous sommes en difficulté, étaient des épreuves qui avaient pour but de révéler une certaine capacité en nous. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons parlé de l'origine, des origines de l'épreuve. C'est ça, n'est-ce pas? Les origines, nous avons parlé de trois origines. La première origine, les difficultés relatives à des fautes volontaires. Amen. À des fautes volontaires. Exemple des conséquences de la chute d'Adam et Ève, de la chute d'Acan, de la chute de Jonas. Alléluia. Qui étaient des difficultés relatives à des fautes volontaires. Alléluia. À des fautes volontaires. Ensuite, nous avons vu la deuxième origine de l'épreuve qui était les difficultés relatives à l'état présent du monde. L'état présent du monde, les accidents, les maladies, la mort. Bien aimé, tout le monde y est soumis. Le chrétien, le disciple comme le païen, tout le monde est soumis aux accidents, aux maladies, à la mort, aux famines, à la tempête. Alléluia. Ensuite, nous avons, en dernier lieu, nous avons vu que la troisième origine, c'était la difficulté, les difficultés relatives résultant d'un témoignage fidèle. Alléluia. Oui, bien aimé, ta vie chrétienne, la validité de ta vie chrétienne est par des épreuves. La validité, l'authenticité de ta vie chrétienne passera par certaines oppressions, par certaines persécutions, la moquerie, la solitude, la persécution, l'emprisonnement, la peine corporelle, la privation des biens, la mort même. Alléluia. Et les apôtres comprenaient ce principe sur quoi l'apôtre Paul va dire que qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Est-ce la mort? Est-ce la persécution? Est-ce ceci? Ici, un ensemble d'éléments. Alléluia. Donc, nous voyons que ici, l'apôtre Paul est celle d'interroger l'authenticité et la véracité du témoignage de chacun. Chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, nous avons parlé du cas d'Étienne qui n'avait pas commis de faute. Alléluia. Mais il a été lapidé. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a connu sa part d'épreuve. Alléluia. Aller à la croix, être crucifié pour rien. Alléluia. Donc, nous voyons que les difficultés résultant d'un témoignage personnel, bien aimé, peuvent attirer dans nos vies un certain nombre d'épreuves. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, les gens vont questionner l'authenticité de ta vie chrétienne. Alléluia. Les gens vont contester cela et on verra les épreuves qui vont s'en suivre. Enfin, nous sommes arrivés au niveau où nous devons parler des buts et les buts des épreuves, les objectifs des épreuves. Nous en avons parlé. Amen. Nous avons parlé des objectifs, des buts des épreuves. Nous avons dit que mettre en évidence la disposition du cœur. Amen. Dieu éprouve un homme pour savoir quelle est la disposition de son cœur. Nous avons parlé de Deutéronome chapitre 8, le verset. Ces deux ont clairement vu comment le Seigneur dit à son peuple par Moïse que le fait qu'il les a conduits au désert pendant 40 jours, pendant 40 ans, avait un but simple, connaître la disposition de leur cœur. Alléluia. Avait un but simple, bien-aimé. En réalité, premièrement, quand Dieu te discipline, quand Dieu nous discipline, quand Dieu nous forme, il nous conduit dans des épreuves. Aucun disciple de Jésus, aucun disciple authentique ne passe pas par le désert. Alléluia. Parfois le désert commence avec les premiers pas de la foi. Pour d'autres, c'est au milieu de la foi. Pour d'autres encore, c'est à la fin de leur foi. Chacun a sa saison. C'est pourquoi tu vas voir certains chrétiens, au début de leur foi, leur vie va aller bien, tout va marcher. Bien-aimé, ne l'envie pas. Ça pas va arriver. Comment dire, ah, mieux de toi, ma part, je ne comprends rien. Et parfois, il va se focaliser sur ça pour croire qu'il a une meilleure relation avec Dieu que toi. Amen. Alors, c'est pourquoi je dis, chacun a son jour où Dieu va lui demander son unique, son fils unique, celui qu'il aime. Alors, le moment-là, tu devras prouver ta foi. Mieux, ça commence au début de ta foi. Et à la fin, tu te reposes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis amen alors. Alléluia. Donc, le deuxième but de la foi, de l'épreuve, bien-aimée, nous avons dit épurer la foi. Amen. Épurer la foi. Comme l'or est épuré par le feu, ainsi le Seigneur nous épure aussi au travers des épreuves. C'est là où on s'est arrêté. On a continué. Alléluia. Et ensuite, nous avons parlé, nous garder d'avoir confiance en nous-mêmes. Alléluia. L'épreuve nous empêche d'avoir confiance en nous-mêmes. Oui, afin de ne pas être rempli d'orgueil. Amen. L'épreuve nous garde de l'orgueil. Alléluia. Quatrième point. Quatrième but. Cinquième but, nous avons dit apprendre la patience. Apprendre la patience. Alléluia. Et nous avons également dit que l'épreuve, on s'est arrêté à quel niveau? La patience. On s'est arrêté à la patience. On a développé la patience. Hein? Ah bon? Le meilleur de nous. Alléluia. Amen. Alors, j'avais dit l'épreuve, le but de l'épreuve est de nous garder d'avoir confiance en nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Le quatrième but des épreuves, c'est de nous garder de l'orgueil. Alléluia. Nous garder de l'orgueil. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. 2 Corinthiens 12, le verset 7. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Ensuite, le cinquième but de l'épreuve, bien aimé, c'est apprendre la patience. La patience. Jacques chapitre 1, le verset 3. Clairement, il dit, sachant que l'épreuve de notre foi, de votre foi, produit la patience. Produit la patience. Oui, bien aimé. L'épreuve de ta foi doit produire la patience. Pourquoi Dieu t'éprouve? C'est pour que tu sois patient. Dans certains cas, il y a des gens qui sont impatients. Vous allez voir ça dans la vie de Anne. Alléluia. Anne était impatiente d'avoir un enfant jusqu'au moment où son épreuve l'a poussée à être patient et attendre le temps de Dieu. Et Dieu l'a gratifié en lui donnant Samuel. Alléluia. Ensuite, Romains chapitre 5, le verset 3. Romains chapitre 5, le verset 3. La Bible dit ceci. La Bible dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Alléluia. L'affliction produit la persévérance. L'affliction, c'est l'épreuve. L'épreuve, bien aimé, sans l'épreuve, tu ne peux pas être persévérant. Amen. Tu ne peux pas être persévérant. Vous voyez le résultat de l'épreuve. Vous voyez le but, l'objectif de l'épreuve, bien aimé. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas persévérants parce qu'ils ne passent pas par ces épreuves. Ils ne comprennent pas pourquoi ces épreuves. Alléluia. Mais quand tu comprends, Dieu forge en toi la persévérance. La persévérance. Alléluia. Ensuite, nous avons le sixième but de l'épreuve. Le sixième but de l'épreuve, bien-aimé, c'est notre sainteté. Notre sainteté. Hébreux chapitre 12, le verset 10. Hébreux chapitre 12, le verset 10. Voici ce qu'il est écrit. Il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Dieu nous éprouve pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Mais tu ne peux pas participer à la sainteté de Jésus si tu ne participes pas à ses maîtrisures. Alléluia. Tu ne peux pas participer à la sainteté du Seigneur si tu ne participes pas à ses épreuves. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Tout le monde veut la gloire du Seigneur, mais personne ne veut passer par où il est passé. Personne ne veut éprouver la difficulté dans sa vie. Tout le monde veut que tout marche dans sa vie. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la gloire du Seigneur sans passer par les épreuves. Peut-être pas similaire au Seigneur, mais similaire à ta part. Alléluia. Le Seigneur va dire aux disciples que vous aussi, vous allez avoir vos épreuves quand le moment va arriver. Et la Bible nous montre clairement les épreuves par lesquelles ils sont passés. D'autres ont été sciés, d'autres ont été crucifiés, d'autres ont été bouillis dans le feu. Alléluia. Vous voyez? Et le dernier d'entre eux a été emprisonné. A été emprisonné. Alors, ça me rappelle, il y a quelques années, en Côte d'Ivoire, il y avait un prophète qu'on appelait Kakou Séverin. C'est l'un des plus grands prophètes de cette saison-là. Amen. Et cet homme, un jour, il a prophétisé contre une autorité de son pays. Et il a dit, Dieu est sur le point de te châtier. Parfois, on dit qu'il faut prophétiser avec la sagesse. Non, la sagesse, ça ne veut pas dire empêcher le message de Dieu d'être diffusé. La sagesse, ça veut dire parler ce que Dieu te demande de parler. Et lorsque l'homme a écouté, l'homme l'a demandé qu'on l'enferme. Parce que c'était une atteinte à sa personne. Et puis, on l'a jugé. On l'a amené devant. Et le jour qu'il comparaissait, le juge lui a dit que, mais tu dis que Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé comment? Il dit, ok, je vais vous expliquer comment Dieu m'a parlé. Alléluia. Il dit, toi, par exemple, toi, tu t'appelles tel, ton père s'appelle tel, ta mère s'appelle tel. Tu as tel problème dans ta vie. Ta femme a tel problème, tes enfants ont tel problème. Voilà, toi, par exemple, toi aussi, Dieu, ta vie est comme ça. Les gars ont fermé le livre, ils ont dit que ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ben, c'est lui qui ont demandé les preuves, n'est-ce pas? Les preuves. Alors, il leur a prouvé que bon, je vais vous montrer donc comment Dieu me parle. Alléluia. Amen. Donc, et cet homme a tellement prophétisé toutes les crises qu'on vit aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire vit, il avait tout dit. Il avait dit. 15 ans en arrière, et il a expliqué chaque phase de la crise. Et un jour, pendant une de ses croisades, à cette époque, le président Gbagbo était un opposant de son pays. Et il est venu à une de ses réunions évangéliques. Il a envoyé l'invitation à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo est venu avec son épouse. Il a prêché. Après, il a commencé à prophétiser. Il est arrivé sur lui. Il a dit, je vois Le fils d'un paysan gouvernait cette nation. Alléluia. Je vois le fils d'un paysan gouverner cette nation. Et il avait déjà répété à plusieurs fois. Et ce jour-là, il lui a dit, toi, tu gouverneras cette nation. Ton temps arrivera. Et il a dit, je vois les enfants de la Côte d'Ivoire pleurer. Pleurer parce qu'ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur mère. Il a tout décrit, les crises. Et quelques années plus tard, le président Gbagbo est devenu président. Et le jour de avant son prestation de serment, il a décidé d'inviter des hommes de Dieu pour venir le consacrer. Alléluia. Mais le prophète Kakou, c'est vrai, on ne l'a pas invité. Celui qui avait dit que tu seras président, il ne l'a pas invité. Amen. On a dit non, il n'est pas trop important. On va inviter les Dieu. Et on a fait venir le papa Maurice Sorulo à cette époque-là. On a dit non, c'est papa Maurice Sorulo qui doit te pointer. Et papa Maurice Sorulo est venu ce jour-là. Il a prié pour lui, il a consacré. L'histoire raconte que le prophète Séverin Kakou est venu. Lorsqu'il est arrivé au portail de la présidence, on l'a empêché d'entrer. Et il a dit, mais pourquoi vous m'empêchez? On dit non, le conseil des pasteurs, ils ont déjà décidé des pasteurs qui doivent entrer, son nom n'est pas dans la liste. Et l'histoire raconte qu'il a commencé à pleurer. Il s'est assis devant le portail. Il a dit, parce que tu n'as pas reconnu le temps du Seigneur, président Gbagbo, et que tu n'as pas honoré celui par qui Dieu t'a béni. Et tu as souhaité que ce soit un étranger qui t'éloigne. Sache que c'est un étranger qui te fera ton trône. Alléluia. Et ça s'est accompli. Amen. Donc, bien-aimé, chaque enfant de Dieu a son style d'épreuve. Chaque enfant de Dieu a la méthode. Dieu a une méthode spécifique avec laquelle il t'entraîne, il te forme, il te bâtit. Amen. Ce qu'on ne peut pas comparer nos épreuves. Et personne ne peut porter l'épreuve de l'autre. Amen. Parce que Dieu a été bâti pour ce type-là. Vous vous rappelez que Paul dit que Dieu ne peut pas permettre une épreuve au-delà de vos propres capacités. Et à ces épreuves, il a toujours prévu une solution pour en sortir. Chacun a une épreuve spécifique. Dans la vie de Paul, il avait cette écharde dans son corps qui était là dedans. Chaque fois qu'il voulait dire, ah, moi, Paul, je suis, il dit pas. Tais-toi. Tais-toi, Paul. Tu sors d'où même d'abord? C'est la grâce qui te maintient là. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé. Notre sainteté, portée, notre sainteté. Ensuite, septième but de l'épreuve, porter du fruit pour Dieu. Porter du fruit pour Dieu. Oui, bien-aimé. L'épreuve a pour but de porter du fruit. Jean chapitre 15, le verset 2. Jean chapitre 15, le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Donc, vous voyez que l'épreuve a pour but de faire porter du fruit. Amen. Quand l'épreuve est émondée, ça veut dire que quoi? Regardez. Voici un bouquet de fleurs, n'est-ce pas? Vous allez constater que le jardinier, il a toujours cette petite cisaille qui lui permet de tailler, de donner une forme aux fleurs. Amen. Et donc, c'est ça l'action d'émonder. Émonder, c'est le verbe tailler pour les jardiniers. Amen. Tailler. On ne dit pas tailler les herbes, on dit émonder les herbes. Alléluia. Nous, on dit tailler les herbes, tailler. Le vrai mot, c'est émonder. Donc, quand tu émondes, ça fait mal, non? On coupe les branches, ça fait mal, ça fait mal. OK, il coupe, le Seigneur, le jardinier, il coupe, ça fait mal. Mais il est en train de te donner une bonne forme. C'est de ça qu'il est question. Ça te permet de t'épanouir plus. Ça te permet de, vous voyez, certains gens vont les émonder en enlevant l'orgueil. On va les émonder en enlevant les amitiés. Alléluia. Ça va faire mal que tes amitiés, tu n'aies plus de rapport avec eux. Alléluia. Ça va te faire mal de rester seul. Ça va te faire mal qu'ils ne t'acceptent plus. Mais quelques temps après, tu vas dire, oh, Dieu, tu m'as délivré. Alléluia. Quelque temps, tu vas célébrer le Seigneur parce que tu vas comprendre le bien fondé de cette déchirure-là. Cette relation qui était compliquée, toi-même, tu n'y arrivais pas. Dieu met la haine et te met à l'abri. Alléluia. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Hébreux 12, le verset 11, pardon. Hébreux 12, le verset 11. Il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Amen. Tout châtiment, toute épreuve semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, c'est ce que nous étions en train de dire, plus tard, pour ceux qui ont ainsi exercé, un fruit paisible de justice. Alléluia. Un fruit paisible de justice. Huitième but bien-aimé de l'épreuve, l'avancement de l'évangile. L'avancement de l'évangile. Philippiens chapitre 1, le verset 2. Philippiens 1, le verset 2. Alléluia. L'avancement de l'évangile. Alléluia. L'avancement de l'évangile. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit, Philippiens? Hein? Philippiens 1, le verset 2, c'est ce que j'ai dit. Philippiens 1, le verset 12, pardon. Philippiens 1, le verset 12. Alors, il est écrit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Alléluia. Ce qui m'est arrivé a plutôt fait comment? A plutôt contribué au progrès de l'évangile, bien-aimé. Rappelez-vous lorsque Genèse chapitre 50, alléluia, lorsque les frères de Joseph, après que leur papa soit mort, s'inquiétaient du châtiment que leurs frères devaient de la vengeance de leurs frères. Qu'est-ce que leurs frères vont leur dire? Que non, n'ayez pas de crainte. Le mal que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Donc, autrement dit, vraiment, la personne qui doit même être reconnaissant à l'autre, c'est moi qui devrais vous être reconnaissant de m'avoir haï et d'avoir voulu me tuer. Alléluia. Parce qu'à la fin, je me rends compte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous fait comprendre clairement ici que l'épreuve, lorsqu'il est bien compris, procède également à l'avancement de l'évangile. Amen. À l'avancement de l'évangile. À l'avancement de l'évangile. Beaucoup d'entre nous ici, aujourd'hui, certains des membres de nos familles cherchent Dieu à cause de notre résilience dans la foi. Amen. À cause du fait qu'on s'est accroché. Aujourd'hui, nos frères, nos sœurs qui doutaient de Dieu vont dire, ah, ton histoire de Dieu là, vraiment, essaye de me dire un peu comment tu fonctionnes. Montre-moi un peu comment tu pries. Montre-moi un peu comment tu jeûnes. Montre-moi un peu comment tu lis la parole. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de gens connaissent Dieu dans nos familles, à cause des épreuves que nous avons surmontées avec le Seigneur. Amen. À cause des épreuves que nous avons surmontées avec le Seigneur. Neuvième but, bien-aimé. Neuvième but de l'épreuve. Encourager d'autres croyants, oui. Il est important de comprendre que, bien-aimé, tes épreuves n'ont pas simplement le but de te tuer, c'est aussi le but d'aider ceux qui se passent par là où tu as triomphé. Alléluia. Là où Dieu t'a donné la victoire, tu deviens un soutien. Amen. Lorsque nous allons dans le livre de Hébreux chapitre 11, nous voyons les héros de la foi. Amen. Les héros de la foi nous permettent d'espérer, n'est-ce pas? De supporter les épreuves par lesquelles nous passons. Parce que nous regardons, nous disons, waouh, d'autres ont pu tenir jusqu'à ce niveau-là, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Alléluia. Quand tu écoutes le témoignage de quelqu'un qui est passé par des moments compliqués, alléluia. Récemment, j'étais à une réunion et un des pasteurs qui était là disait que lui, il a fait 12 ans sans enfant. Amen. Dieu lui a donné son premier enfant à la 12e année. L'autre a dit que pour lui, la 11e année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et chacun sortait un chiffre. Ma passe à tel nombre d'années. Tu réalisais que, ah, la fin est là. Maintenant, s'il part, il s'assoit là où quelqu'un crie tous les jours, « Seigneur, je veux l'enfant, Seigneur. » Il va lui dire que, « Mon frère, calme-toi. » Alléluia. Il va dire, « Calme-toi. Je connais ce que, je connais le chemin. » Amen. Je connais le chemin. C'est important. C'est important. Philippiens chapitre 1, le verset 14. Philippiens 1, le verset 14. Alléluia. Philippiens 1, le verset 14. Il dit, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens. L'apôtre Paul dit, encouragés par mes liens, par mes souffrances, par mes épreuves. Oui, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alléluia. À cause de la victoire de Paul sur les épreuves, beaucoup pouvaient prêcher la parole avec foi. Beaucoup pouvaient prêcher la parole avec plus d'assurance. Alléluia. Amen. Vous voyez? 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 6 à 7. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Oui, bien aimé. Alléluia. Quand tu sais que ton frère, ta sœur est passé par où tu t'apprêtes à passer, tu es encouragé à avancer. Alléluia. Tu es encouragé à avancer. Et tu sais que le Dieu qui était fidèle pour lui sera encore fidèle pour toi. Amen. Ensuite, on est au 40e but. 10e but. Amen. Le 10e but de l'épreuve pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Pour que Dieu soit glorifié. C'est très important, mes bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Alléluia. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Vous voyez, bien aimé, Dieu s'est glorifié dans la faiblesse de Paul. Alléluia. Dieu s'est glorifié. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que Dieu se glorifie quand tu es faible? Alléluia. Tu es faible aux yeux des hommes. Dieu se glorifie, son nom est plus glorifié. Alléluia. Quand tu crois et que dans les épreuves tu t'accroches, alléluia. Notre Dieu est fidèle. Dis avec moi, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Rappelez-vous de Job qui m'a dit, mon rédempteur s'élèvera en dernier et justifiera ma cause. Vous pouvez voir ici que c'était pour que le nom du Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Est-ce que dans ton épreuve, tu vois même l'aspect de la gloire de Dieu? Oh, est-ce que Dieu se glorifie? Et où est la gloire de Dieu quand je n'ai rien à manger? Où est la gloire de Dieu quand je suis foiré? Où est la gloire de Dieu quand mes choses ne marchent pas? Oui, Dieu aussi se glorifie quand tu es incapable de faire ce que tu crois. Tu croyais avoir la capacité hier. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Dieu se glorifie. Amen. Rappelez-vous dans le livre de Jean, chapitre 9, de cet enfant qui avait été malade. Alléluia. La Bible dit que les disciples ont posé une question à Jésus pour lui dire que, mais qui a péché? Est-ce l'enfant ou ses parents? Jésus va dire non, ni l'un ni l'autre. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. C'est l'histoire de, et vous allez voir ça dans Jean, chapitre 11, avec Lazare également. Alléluia. quand on il va dire, mais là, il dit non. Tout ça, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Parfois, Dieu peut même te faire passer dans le séjour des morts pour que son nom soit glorifié. Seigneur, où est ta gloire si je meurs? Il y a sa gloire. Meurs, tu vas voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Oui. Meurs, tu vas voir sa gloire. Tu vas voir. L'autre jour, maman Caro m'a envoyé un lien. Et je regardais ce lien, c'était le lien d'un pasteur que j'ai ses livres à la maison, dont j'ai les livres à la maison. Et ce pasteur disait que vraiment, la jeune génération aujourd'hui critique beaucoup les papas. Alléluia. Et que lui-même, à une certaine époque, il passait son temps à dire comment certains pères de l'évangile au Cameroun ont échoué. Amen. Que vous avez échoué, vous avez échoué, vous avez échoué. Alors un jour, Dieu lui donne une vision. Il se retrouve quelque part dans l'arrière-case de papa, un des pères de l'évangile, j'ai oublié son nom. Alléluia. Et il le trouve en train de labourer le sol. Et pendant qu'il laboure, il voit il laboure avec tellement de difficultés, lentement, il dit voilà. Vous voyez, on âge. Au lieu de laisser les plus jeunes faire ce qu'il est en train de faire là. Il dit que le papa se lève, il appelle par son nom, il lui dit que, ah mon fils, est-ce que tu veux m'aider? Il dit que oui papa, je suis jeune, je suis fort, je peux t'aider. Il dit ok, prends la roue, tu essaies de faire comme j'ai fait là. Il dit que la roue était tellement pesante, qu'il s'est demandé quelle était la force que ce papa avait de faire cette roue-là. Amen. Alléluia. Et bien aimé. Parfois, nous regardons certaines choses et nous semblons ne pas voir la gloire de Dieu dedans. Mais la gloire de Dieu n'est pas une lumière qui explose dans le ciel. Hein? Alléluia. Dieu tire sa gloire là où aucun homme ne peut imaginer. Amen. Je vous assure. Dieu tire sa gloire là où aucun homme ne peut imaginer. Et je suis sûr que beaucoup vont se retrouver au ciel. Croyant qu'ils ont comptabilisé le nombre de personnes qui sont envoyées au ciel. Ils vont dire, ah, moi, je sais que j'aurai une grande place parce que la manière que j'ai fait les campagnes d'évangélisation, partout, partout. Et il va se rendre compte que lui, il est dans une vieille case au ciel. Et qu'il y a une seule personne qui a conduit son voisin et puis il est mort. Il est dans un palais. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention de la manière que nous concevons ou voyons la gloire de Dieu. Et d'autres vont dire, ah, la gloire de Dieu, c'est que je me marie. La gloire de Dieu, c'est que j'ai les enfants. Qui t'a dit ça? La Bible dit que Dieu lui-même a rendu Rachel stérile. Dieu a rendu Rachel stérile. Mais Dieu rend quelqu'un stérile pour sa gloire. Dieu fait souffrir quelqu'un de faim pour sa gloire. On n'aime pas l'autre partie ici, n'est-ce pas? Alléluia. Oui, parce que notre chair n'aime pas cette partie-là. Et parfois, on est poussé dans nos petites prières émotionnelles. Alléluia. Plein de chantage à Dieu. Seigneur, oh, ta gloire, c'est ta gloire que je cherche. Quelle gloire? Si tu dis que voilà ma condition, tu vas accepter. Amen. Parfois, dans nos petites prières émotionnelles, Seigneur, quand je reste comme ça, où est ta gloire? Où est ta gloire, Seigneur? Où est ta gloire? Ma vie n'est pas bien. Où est ta gloire? Sa gloire est bien comme tu n'as rien. Alléluia. Sa gloire est bien. Sa gloire, il est glorifié. Il est heureux quand tu es comme ça. Alléluia. Et vous voyez, parfois, on regarde ça, on dit que, wow, wow, Dieu. Oh. Non, ne regarde jamais la gloire de Dieu avec les yeux d'un homme. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Et c'est ça notre problème. On croit que la gloire de Dieu, c'est quand fier. Bien-aimé, dans des moments d'épreuve, ne prie pas pour demander, Seigneur, pourquoi je vis ça. Dis, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Tiens-moi par la main. Alléluia. On chante beaucoup ce qu'on dit. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Oh, tiens-moi. Si tu me laisses, le foirage va me tuer. Alléluia. Quand tu chantes ça, donc, quand tu passes par les moments, dis seulement, Seigneur, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Même David est passé par le séjour de l'ombre de la mort. N'oubliez pas, Jean chapitre 11, la Bible parle de Lazare comme l'ami de Dieu, de Jésus. L'ami de Jésus. Jésus l'a laissé passer par la mort. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais le gars n'est pas allé là-bas. Il a fait comme, il a fait même plus de jours que Jésus. Hein? Est-ce que quelqu'un sait ça? Il a fait plus de jours que Jésus est resté trois, il est lui sorti. Le gars a fait quatre. Alors, tu peux être l'ami de Jésus et connaître la difficulté. Tu peux être l'ami de Jésus et être dénudé. Tu peux être l'ami de Jésus et n'avoir même pas posé la tête. Alléluia. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, une question importante que tu dois te poser dans tes moments. Seigneur, est-ce que tu trouves ta gloire dans ce que je suis en train de vivre? Alléluia. Est-ce que tu te plais dans ce que je vis? Si tu te plais, gloire à Dieu, tiens-moi alors la main. Si tu ne te plais pas, sors-moi de là. Alléluia. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Amen. Alors, je voudrais encourager tous ceux-là qui passent par des moments difficiles. Ne sois pas ébranlé par les épreuves par lesquelles tu passes, bien-aimé. Tu es appelé et destiné à cela. Amen. Tu es appelé et destiné à cela. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20 à 21. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20 à 21. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit ceci. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ah! C'est une quoi? Grâce devant Dieu. Le verset 21 dit que quoi? Et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à faire quoi? À supporter la souffrance lorsque nous faisons le bien. C'est dur, n'est-ce pas? Et dit parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant quoi? Un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Qui veut suivre les traces de Jésus? Ça passe par là. Alléluia. Ça passe par là. Il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Le rejet. Les gens proches à toi vont te rejeter. Ta propre famille va te rejeter. Tes propres amis vont te mettre en jeu. Amen. Tu seras traité comme un paria de la société. Alors que tu fais le bien. Comment quelqu'un qui fait le bien, on le met dans le lot des prisonniers? Mais celui qui fait le mal, on le célèbre. On a vu ça avec Barabbas et Jésus. On a préféré le méchant que le bien. C'est ça l'humanité dans laquelle nous sommes. Ne faites pas confiance à un monde, à un monde si tu es Jésus. Tu crois que c'est toi qui vas laisser? Ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ah, Paul dit que nous sommes destinés à cela. À faire le bien et on nous répond par le mal. À aimer et on nous répond avec la haine. Donner à manger aux nécessiteux et ils nous insultent. Nous sommes destinés à cela. Dis à ton voisin, tu es destiné à cela. Tu es destiné à cela. Alors, si tu es destiné à cela, si quelqu'un te répond à ton bien avec le mal, ne te fâche pas. Tu n'as pas le droit de te fâcher parce que c'est ta mission. Amen. Puisque tu as été appelé à cela. Tu as été appelé à cela. Alléluia. Tu as été destiné à cela. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée 3, le verset 12. Le verset 12. Il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre. Vivre comment? Enseignement proprement devant le Seigneur, en faisant ce qui est correct. C'est là où vos problèmes vont commencer. Plus tu vas vouloir faire le bien, c'est là où tous tes problèmes vont commencer. Parce que le monde-ci n'aime pas le bien, le monde-ci n'aime pas la droiture, ce monde-ci n'aime pas la justice, ce monde-ci n'aime pas la vérité. Alléluia! Comment on peut mettre quelqu'un que Pilate a lavé les mains, qui n'a rien trouvé de mauvais en lui. On le crucifie. Parce que chaque fois qu'on regardait Jésus, quand quelqu'un regardait Jésus, il voyait son péché. Et le type, si vraiment, chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il est en train de me dire que le vol là que tu fais là n'est pas bien. Le vol là, alors qu'il n'a rien dit. Il y a des gens, bien aimés, quand ils te voient, quand tu dis que Jésus va, ils vont te répondre, tu veux montrer que quoi? Que tu es trop saint. Tu es trop saint. Pardon, laisse-moi. Alléluia. Chacun sa vie, chacun sa foi. Ils vont te dire, la foi est dans le cœur même, d'abord même. Alléluia. On vous répond ça, n'est-ce pas? Tu n'as rien dit, hein? Mais ça énerve quelqu'un d'autre. Chaque fois quand il te voit arriver, il dit, et là voilà. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre chapitre 4. Chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme une chose étrange. Et ne soyez pas surpris comme une chose étrange. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient et dit, papa, vraiment, les situations par lesquelles je passe, je dis que tu ne dois pas regarder ça comme une chose étrange. Donc, quand tu viens et dis, ok, comment tu te plains d'une chose qui est normale dans ta vie? C'est normal. Amen. C'est normal qu'on te déteste. C'est normal qu'on cherche à te finir. C'est normal qu'on te haïsse, qu'on te rejette. Oh, papa, vraiment, personne ne m'aime, je ne comprends rien. Laisse. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est ta marche. C'est ton appel. Alléluia. Il dit, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu pour vous, pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire ce que tu vis. C'est normal. Va regarder ceux qui nous ont précédés. Allons regarder ceux qui nous ont précédés dans les Écritures, nos aînés dans la foi. Qui a eu une vie paisible? Que quelqu'un lève la main, mais cite un nom. Alléluia. Qui a eu une vie paisible? Même pas notre maître. Alléluia. Même pas notre maître. Alors tu dois prendre courage. Dis à ton voisin, prends courage. Prends courage. Prends courage. Alors, à ceux-là qui passent par des moments difficiles et que cet enseignement si, les parle de manière spécifique, bien-aimé, je voudrais te rassurer que Dieu te donnera toujours des forces particulières. Amen. Dieu te donnera toujours des forces particulières. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12. Regardons ce qu'il dit à partir du verset 9, 9 à 10. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. C'est pour plaire dans les faiblesses, dans les persécutions. Ensuite quoi? Dans les détresses, pour qui? Car je suis faible, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis content, je suis heureux parce que je passe par où je... Alléluia, je suis heureux parce que je passe par où je passe, parce que pendant que je suis dans cette complication-là, Dieu se glorifie. Est-ce que je peux vous prouver ça? Chaque soir, vous vous endormez avec beaucoup de complications, n'est-ce pas? Mais le matin, vous êtes plus fort pour vous lever, non? Qu'est-ce qui vous lève? Qu'est-ce qui vous donne la force d'avancer, de croire avec toi jusqu'à la consommation des jours? Alléluia! Alléluia! Oui, la présence de Dieu n'enlève pas tes épreuves. Au contraire, ça amplifie tes épreuves. Mais il est là pour toi. Plus l'épreuve est grande, plus sa force est grande. Alléluia! Et Paul va aller même plus loin. Philippiens chapitre 4. Le verset 12 à 13, Philippiens 4, 12 à 13, il va dire, je puis tout par celui qui me fortifie, bien-aimé. Je puis tout par celui qui me fortifie. Chapitre 11, le verset 34, alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, prenons à partir du verset 31, il dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, éteignirent la justice, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Oh mon Dieu, c'était des hommes comme nous, faibles comme nous. C'était des hommes qui, dans leur faiblesse, la force de Dieu s'est glorifiée. Et c'est dans ta faiblesse que la force du Seigneur va se glorifier. C'est dans ta faiblesse, c'est au moment où tu vas dire, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'y arrive plus. Seigneur, je suis au top final de mes capacités. C'est alors que sa force va devenir ta force. Alléluia! 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 Vous voyez? Je voudrais encourager encore quelqu'un qui passe par ce moment compliqué. Les souffrances pour Christ, bien aimé, sont une source de joie et de bénédiction présente et éternelle. Amen! Sont une source de joie présente et éternelle. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, le verset 17, qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé? Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, le verset 18, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Vous voyez? Les légères tribulations, difficultés par lesquelles tu passes aujourd'hui, maintenant, produiront pour toi demain un poids éternel de gloire. Alléluia! Un poids éternel de gloire. Bien-aimé. Pierre chapitre 1, le verset 7. Pierre 1, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ fera comment? Apparaîtra. Mais bien-aimé, c'est par quoi nous passons. Oui, c'est pour un moment, c'est pour un temps, mais ça va produire dans nos vies la louange, ça va produire dans nos vies la gloire, l'honneur, lorsque le Seigneur apparaîtra dans nos vies. Apparaître ici, ça ne veut pas dire la perfection de lui-même. Vous rendra pas fait lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. C'est ta saison au nom de Jésus. Cette saison d'établissement divin passe également par ces épreuves par lesquelles Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire sur la détresse, sur les calamités, sur les souffrances, sur le rejet, sur la mésentente, sur les complications de la vie. Au nom de Jésus, il te donne la force. Deux pieds. Allons-y à deux pieds, chapitre 2, le verset 9. 2 Pierre 2, le verset 9. 2 Pierre 2, le verset 9. Il dit ceci. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Le Seigneur s'est délivré, bien-aimé. Oui, il réservait les injustes pour être punis au jour du jugement. L'Éternel te délivrera de cette épreuve. L'Éternel te délivrera au nom de Jésus. L'Éternel te délivrera au nom de Jésus. Voyez. Job dit à la fin de son histoire, Job chapitre 42, verset 5, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Oui. Maintenant, au travers de tes épreuves, tu connaîtras ton Dieu. Au travers de tes épreuves, tu connaîtras ton Dieu. Au travers de tes afflictions, tu connaîtras ton Dieu. Au travers de ta détresse, tu connaîtras ton Dieu. Au travers du rejet, tu connaîtras ton Dieu. Au travers de ces épreuves, tu connaîtras ton Dieu. C'est compliqué. Ce jour terrible où Dieu va lui faire une demande horrible. Son fils unique. Genèse chapitre 22. J'aime beaucoup ce chapitre. C'est un de mes textes favoris. Toute l'histoire est là-bas. La Bible nous enseigne que notre père Abraham, oh mes bien-aimés, est passé par toutes sortes de souffrances émotionnelles ce jour-là. Quel est ce Dieu qui peut tuer mon enfant? Quel est ce Dieu qui peut donner quelque chose et reprendre au même moment? Qu'est-ce que tout cela signifie? Quelle est cette histoire dans laquelle je me suis engagé? Quelle est cette joie qui est éphémère? Et la Bible dit, à un certain niveau de la montagne, lorsqu'il arrive, il voit la montagne de loin. Il dit au serviteur, cette histoire, je ne veux pas de témoins. Ce qui va se passer là-bas dans ma relation avec Jésus. Je ne veux pas de témoins. Il y a un niveau dans ta marche avec le Seigneur, un niveau de ta marche sacrificielle où même ton pasteur, même ton prophète ne peut pas t'accompagner. Tu dois faire cette démarche de toi avec ton Dieu. C'est de cette démarche-là que ta révélation viendra. Alléluia. La Bible dit qu'il va prendre son fils. Ils vont monter la colline. À un certain niveau, son fils va dire, papa, permets-moi de te poser une question. Et le fils pose la question. Il dit, je vois du bois. Je vois tout ce qu'il faut. Je vois les allumettes. Je vois le couteau. Je vois tout ce qu'il faut pour un sacrifice. Mais l'élément principal, l'agneau, où est l'agneau? Et Abraham va faire une démarche de foi. Bien-aimé, c'était le cri de son cœur. C'était le cri de son cœur qu'il déclarait ce jour-là à son fils. Il dit, mon fils, à la montagne, j'espère que papa me lâcher. J'espère que quelque chose va se passer là-bas. C'est quoi le Seigneur dit à Thomas que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Abraham, c'est le père de la foi, parce qu'il a cru sans avoir vu. Il a dit, à la montagne, l'Éternel se pourvoira de l'agneau du sacrifice. Et son fils dit, d'accord papa, amen. Sauf que Isaac est le symbole d'un fils obéissant. Il n'a pas résisté à son père. Il a dit, ok, allons-y. Alors, arrivé à la montagne, qu'est-ce qu'il a dit à son fils pour que son fils accepte qu'il l'attache et qu'il le mette sur l'autel? Alors qu'il lui a dit à la montagne, l'Éternel se pourvoira. Entre-temps, sur la montagne, fils, pardon, montez d'abord ici. On ne sait jamais. Alléluia. C'était fort. Abraham dit que mon fils, il a fouillé d'abord tout
la colline. Il n'a rien vu. Il dit, mais papa, donc c'est la vérité.
Après, il dit, Isaac, je crois qu'elle va te zigouiller. L'œil est grave. Tu es prêt à mettre jusqu'au bout. Il dit, papa, fais comme tu y as pensé.
Et c'est comme ça qu'il prend son fils. Il l'attache. Il le met sur le fagot de bois. Juste au moment.
Oh, mon Dieu, mon roi.
Le secours de l'Éternel ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, l'Éternel est le dernier et il se rassure d'avoir la gloire.
Et la Bible dit qu'il va dire à son fils, Abraham, ne lève pas la main sur ton fils.
Oh, je peux voir la joie d'Abraham. Je peux voir Abraham danser. Je peux voir Abraham secouer son corps. Je peux voir Abraham dire, papa, la suite là, je m'en fous. Je suis d'abord dans la joie. Abraham, regarde les buissons.
Il regarde, il entend. Il dit, mais j'ai fouillé ici. J'ai fouillé ici.
Il y a certaines provisions qui vont venir au moment où tu comprendras la signification de ton épreuve.
Ah non, tu n'as pas compris.
Il y a certaines visions qui vont venir à la fin de la conviction de foi dans ton épreuve.
Au moment où tu n'auras plus de porte de secours et que tu vas dire, Seigneur, ok, qu'advienne qui pourra, je saute. Il dit, d'accord.
Alléluia. Une scène similaire va se produire un jour où notre grand frère David va arriver au combat. Il va trouver un homme qui insulte le peuple d'Israël. Il va dire, mon cher ami, quel est cet incirconcis? Aïe, qui insulte le Dieu, le peuple du Dieu vivant. Aujourd'hui, je vais finir avec toi. Ah,
tout le monde dit, mon petit, cet homme-là, il est né dans le combat. Donc, depuis le ventre de sa mère, il combat.
Il sort, il combat. Donc, il a tué tellement. Donc, il est né dans le combat. Toi, tu es
Il dit, papa, tu ne connais pas mon CV. Il dit, papa, Saoul, tu ne connais pas mon CV.
Tu n'étais pas dans mon intimité. Quand le Seigneur m'a délivré de l'ours, tu n'étais pas dans mon intimité. Quand l'Éternel m'a délivré du lion, et aujourd'hui, il me délivrera de Goliath.
Il n'a pas pris la même arme.
Bien-aimé, lorsque tu passes par certaines épreuves, tu ne dois pas épouser les armes de ceux qui ont échoué. Saoul va lui dire, mon fils, voilà mon épée, voilà mes... Il dit non,
ça a échoué, frère, ça a échoué. Si c'était fort, pourquoi toi-même tu n'es pas allé chez Goliath avec?
Amen. Il a dit, il y a une arme que Dieu m'a révélée dans la prière. La pierre. Parce que David était un prophète. David avait vu Christ comme la pierre angulaire.
David dit, cette pierre-là est la principale. Oh. Comme moi, cette pierre était rejetée.
Moi-même, on m'a rejeté. Mais aujourd'hui, je suis roi dans ma famille. Roi, il ne te dit même pas, tu as ton successeur, tu n'es même pas au courant.
On m'a déjà ou un roi. Celui qui t'a ou un à ta place. Et c'est comme ça que ce jour, alors qu'il disait à Goliath, aujourd'hui, avec cette pierre, je vais te fracasser le crâne. Et avec ton épée, je vais te trancher la gorge. Dieu s'est éteint au ciel. Il a dit, mon Dieu, regardez cet enfant. Regardez tous ces hommes de guerre, cachés dans leur tente. Cachés, dissimulés dans les robes de leurs épouses. Que Goliath va dire, Dieu, Goliath. Regardez cet enfant qui s'avance seul. Est-ce que je devrais le laisser? Et le ciel dit non. Il dit alors, nous allons soutenir sa main. Et quand il a lancé la pierre, Goliath dit, ah, ça c'est le moustique, les amis. Ça c'est le moustique. Devant moi, il y a maïs. Alléluia. Il ne savait pas que la pierre grossissait plus, ça arrivait sur lui.
Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit glorifié.